Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Bonjour.
Arlette, bonjour. Bonjour.
Bonjour.
Madame. Bonjour. 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 Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Dominique, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
Vous aviez 20 ans.
Bah, qui on va fréquenter? Les grands-mères?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse et aujourd'hui, nous allons chez Arlette.
Mais moi, ça me panique un peu, sachant que vous alliez venir.
Elle
parle d'une retraitée de ma vie, mais je me dis, qu'est-ce que tu veux que je raconte à 90 ans?
Arlette est la deuxième du nom que nous rencontrons. Pour autant, elle n'a rien à voir avec notre Arlette de la saison 1. Arlette n'est pas de Marseille, elle vit dans la campagne près d'Angers. La campagne au sens propre du terme, puisqu'elle habite dans un ancien corps de ferme au milieu des champs. Arlette a le corps robuste des femmes qui ont beaucoup travaillé et le sourire discret et chaleureux. Nous la rencontrons ce matin d'août autour d'un café chaud, en compagnie de sa petite fille, Amy. Elle nous dévoile alors une vie fortement marquée par la guerre.
Voilà, c'est le micro qui va enregistrer ce qu'on raconte.
Je suis née le 11 juillet 1932 en Picardie, dans un tout petit village. Il y a l'église qui est là, ma maison est là, mais c'était dans l'école. D'accord. Mon père était instituteur et il y avait un grand terrain qu'on appelait un jeu de pommes. Ils jouaient, c'est comme quand on joue au tennis, mais ils jouent 6 contre 6. Moi, ma maison est là. Dans le village, il y avait un très grand terrain. Et on jouait à pomme. Et moi, quand j'étais petite, j'habitais en face. Il y avait des bancs. Les gens du village venaient voir les hommes qui venaient des villages voisins, qui venaient jouer là, bien, qui étaient chic, en pantalon blanc.
Et vous y avez joué?
Ah ben non, c'était pas de mon âge. Moi, j'étais une petite fille et c'était surtout les hommes à l'époque. Je vous parle des années 40. Nous, après, donc la femme a fait autre chose. Elle faisait quoi? Ben, elle cousait d'abord, elle brodait, elle cousait leurs vêtements. Moi j'ai vu ma mère, mais ma mère s'ennuyait pas. Moi, si moi j'étais en train de regarder un jeu de pommes, notre fenêtre était ouverte, la salle, mais elle faisait de la couture. Elle faisait nos vêtements, même pour elle aussi. Il fallait de la récupération pendant la guerre, Par exemple, si elle me faisait une petite jupe ou une petite robe dans un pantalon à mon père, on ne laissait rien perdre, en fait. Tout était précieux. Mais là, c'était en 40, quand la guerre a été déclarée en 39. Bon, en 39, on n'allait pas souvent en vacances. Mes parents, on allait à Saint-Michel-Chef-Chef, là-bas. Alors, ben, j'avais la sœur de mon père qui habitait à Saint-Michel-Chef-Chef. Et on allait quelquefois au bord de la mer, pas tous les ans, mais on y allait quand même quelquefois. Et cette année-là, en 39, on y était. Et tout d'un coup, mon père voit des affiches. Il savait, il avait écouté la radio, mais il devait le savoir. Mais moi, j'étais là, j'avais vu les affiches où la guerre était déclarée. Alors, allez, on rentre. Donc, on est rentré dans la Somme après. Et puis encore, alors là, où est-ce que tu voulais en venir encore?
Je ne sais pas, moi j'ai un souvenir d'une histoire. C'était où tu dois vite partir et tu dois choisir
oui.
une poupée.
En 40, oui, c'est ça. En tant que secrétaire de mairie, il avait reçu les ordres qu'il fallait que tout le village, tout le monde devait partir, évacuer, on disait. On allait évacuer. Alors, maman, je peux réévacuer, ça me fait rire, parce que maman, je vous disais qu'elle m'avait fait une petite robe. Une petite jupe ou une robe à bretelles, je ne sais pas quoi. Elle me disait, tiens, mets donc ta robe d'évacuée. Elle ne devait pas être formidable, cette robe, sans doute, dans un pantalon. Et j'avais un petit pull jaune, je vois encore. Elle m'avait tricoté un pull jaune avec. Si bien que fallait partir, mon père a dit à maman, je vais porter les papiers de mairie, tous les papiers de mairie, au maire, parce que lui, il va évacuer dans un chariot, il y aura de la place pour emmener tout ça. Lui, nous, on avait juste une traction avant. Il a dit à maman, on a une heure, il faut qu'on soit parti dans une heure. Alors, je vais prévenir le maire et le garde-champêtre pour qu'il annonce partout le départ. Alors, c'était là, on a une heure pour partir. Il dit à maman, tu rassembles, tu prends ce qu'on a de plus précieux. Et c'est tout, on n'avait pas beaucoup de place. On partait déjà assises dans la voiture. On avait mes deux frères. Oui, on était les trois enfants, papa, maman, et puis une vieille tante, une célibataire, qui venait manger chez nous tous les dimanches. Du coup, on avait l'argenterie. Maman, elle a dit, c'est ce qu'on a de plus précieux, c'est l'argenterie. Elle avait mis l'argenterie dans la voiture. Puis on nous l'a volée en Anjou quand on est revenu. On avait arrêté notre voiture pour aller à l'hôpital, parce que mon frère a eu besoin d'aller à l'hôpital. Puis on avait laissé notre voiture, je ne sais pas où. Puis quand on avait visité notre voiture, on nous avait piqué l'argenterie. On a toujours rigolé avec ça.
Mais ça, c'était en 40, donc vous êtes revenu après.
Ça, c'était en 40, oui. Je sais pas, vous devez voir ça à la télé, quelquefois, les gens sur les routes avec leur petit paquet, un petit sac, c'est l'évacuation, on part à pied ou avec un vélo, ou avec quand on n'a pas de voiture, tout ça. Alors, il y a les Belges, nous, on a, en Picardie, vous voyez, il y avait la Belgique, il y avait tout ça, ces gens du Nord qui passaient par chez nous, pour venir, nous, on était contents d'avoir traversé la Loire pour venir là, puis d'ailleurs se retrouver à Saint-Michel. Alors, les autres ont cherché à traverser, oui, la Loire, le Seine, je ne sais pas quoi. Alors, ils s'arrêtaient au retour. Alors, ils faisaient des pauses dans les maisons. Ils arrivent, ils voient plein de poupées, forcément, les gosses en emportent. Tout le monde s'était servi. Puis plein de choses, on n'avait plus... On avait été volés, là c'était pillé, quoi.
Et vous êtes allé où?
Et là, on est venu, on avait donc la chance de venir chez la sœur de mon père à Saint-Michel. Alors, on a fait une pause, on a fait plusieurs pauses en route pour aller jusqu'à Saint-Michel.
C'était en zone libre?
Et là, c'était, oui. Mais là, c'était, pour moi, c'est des bons souvenirs, c'est la première fois que j'allais à la mer, comme ça.
Et après, vous êtes retourné?
Ah oui, dès lors, parce qu'on est resté en contact à écrire ou à téléphoner, sans doute, je ne sais pas, avec les gens du village qui rentraient, les uns après les autres rentraient s'installer.
Parce qu'en fait, quand vous êtes revenu, les Allemands étaient là?
Oui, oui, partout, oui. Mais c'était vivable.
Et il y en a qui avaient leur maison, qui avaient des Allemands dedans, du coup?
Oui. J'avais deux frères, c'est tout, oui. C'était la guerre, donc. Quand j'avais 11 ans, 12 ans, je ne sais plus, en 1943, à l'époque, les Allemands avaient mobilisé... Il fallait aller travailler en Allemagne, parce que tous les Allemands étaient partis sur le front, enfin partout. Et il venait des étrangers travailler en Allemagne, et lui, toute la classe 21... Il était né en 21. La classe 21 avait été mobilisée pour aller travailler dans une usine d'armement en Allemagne. Alors, il y en a qui ne partaient pas, Mais lui, souvent, on m'a dit, bah, pourquoi il est parti, ton frère, alors que d'autres ne sont pas partis et puis qu'ont eu la vie sauve, quoi. Mais alors, lui, il est parti là-bas parce qu'il avait un frère qui était plus jeune que lui. Donc, son frère avait une vingtaine d'années. En 43, il était de 25, vous voyez. Si bien que s'il était parti, bah, ils auraient emmené son frère à la place. Alors, bon, ben, il est parti de Mallorca, il était parti tout gai, quand même tout content. Puis il y avait des copains qui partaient en même temps que lui. Et ils s'en allaient en Allemagne, c'était un voyage.
Et il est revenu ?
Eh bien non, justement. C'est pas, non, parce qu'il a été tué dans un bombardement, parce que comme il était parti en 43, en 44, les Anglais et Américains, enfin les Alliés, ils allaient bombarder l'Allemagne. Et lui, comme il travaillait dans une usine, ça a été bombardé. Là. J'avais 11 ans quand il est parti. Alors voir mon grand frère comme ça partir, et puis après, on recevait les lettres. Toujours maman m'envoyait chercher les lettres, parce qu'à l'époque, le facteur venait en vélo nous apporter le courrier. Et maman me disait, ben va voir s'il y a une lettre de Marius. Si bien que je revenais, ou quelquefois, ben, il n'y en avait pas. Mais alors, on a reçu, j'ai encore la lettre qui a été envoyée à mes parents. On nous a envoyé un corps. On s'est toujours demandé si c'était vraiment lui. On nous a envoyé quelqu'un, mais un corps, mais est-ce que c'est lui?
Et votre deuxième frère, il n'est pas parti à la guerre?
Alors, non. Ah ben non, la guerre s'est passée, c'est terminé. Et après, il est parti travailler. Quand j'ai dit tout à l'heure que si mon frère n'était pas parti, ils auraient emmené son frère. Mais alors, oui, il y avait la résistance. Vous avez entendu parler de la résistance, hein, oui. Alors, il y avait un groupe de résistants qui s'était formé dans le village et les alentours, là. Et il y avait un collègue à mon père, là, le directeur d'une école voisine, qui lui avait dit, mais il avait mis au courant qu'on a un groupe de résistance. Si on a besoin, est-ce que tu seras des nôtres? Et mon père a dit, bah oui, bien sûr. Alors donc, il y avait les Anglais, ou je ne sais pas si c'est les Anglais ou les Américains, enfin, ça venait d'Angleterre, il y avait des parachutages. Au cas où on aurait besoin de se défendre s'il y avait un coup dur avec les Allemands, alors c'est là que mon père a assisté, et puis mon frère aussi, l'autre qui avait... Hein, et on assistait aux parachutages. Alors, fallait dans les parachutages, ben, il y avait des armes, il y avait de l'argent, il y avait... je ne sais pas s'il y avait de la nourriture, mais enfin peut-être un petit peu. Puis il fallait cacher, il ne fallait pas que les Allemands le sachent, il fallait cacher les parachutes aussi. Alors les armes, moi j'ai entendu mon père qui, dans ce petit village-là, on était là dans un creux, mais ici il y avait une colline, c'était haut, il fallait descendre. Et toute une nuit, avec son ami, là, ils ont passé toute la nuit à descendre les armes sur une... Je ne sais pas ce qu'ils avaient comme carrière. Pour aller les mettre à l'abri sur une île, à l'étang. Dans un étang, là, ils ont passé toute la nuit pour que les Allemands ne les trouvent pas. Et puis les parachutes, ben, je m'en souviens, ils avaient ramené les parachutes à la maison, il fallait les cacher aussi. Alors, ils ont enlevé un appentis, là, où il y avait des planches, enfin, un plancher. Ils ont enlevé les planches. Et on a caché les parachutes là, en dessous. Et puis après, les meubles par-dessus, je ne sais pas quoi, ce qu'il y avait par-dessus. Si bien que les parachutes, ils sont restés là jusqu'à la fin de la guerre. Et puis à la fin de la guerre, on a été recherché. Là, on a pu, quand les Allemands étaient partis, il n'y avait plus rien. On a cherché les parachutes. Puis maman m'a fait, par exemple, elle m'avait fait mes petites chemises, mon trousseau. Pour rentrer en sixième avec toutes mes petites chemises étaient faites en parachute.
et du coup, votre papa, il n'a jamais été...
Alors si, alors justement, si, mon père a été arrêté parce que ça se savait dans le village, là, ça se savait qu'il y avait la résistance. Et les Allemands ont fini par savoir qu'il y avait un parachutage dans les champs, là, au loin, parce que les jeunes... Vous savez bien, les à l'époque, c'était pas grand. On ferait ça maintenant. Ils avaient crevé les pneus. Ils avaient crevé les pneus des voitures des Allemands. Alors, ils ont été pris, forcément, tout de suite. Et ils ont trouvé les gars. Et où est-ce que vous avez trouvé des crève-pneus ? Ça, alors, ils savaient bien d'où ça pouvait venir. Ça pouvait venir, de justement, des parachutages. Ça. Alors, ils ont voulu ça. Ils ont dû les tabasser un peu pour savoir où est-ce qu'ils... là, et puis pour qu'ils donnent des noms. Alors qu'ils ont donné des noms, dont mon frère, mon père, d'autres, les voisins à côté, celui qui avait son champ, qui habitait là, un agriculteur qui y était pour rien, mais il y a eu le parachutage dans son champ. On lui a dit, ben, c'était dans votre champ, vous deviez le savoir. Et puis l'agriculteur a dit, mais oui, mais je suis allée déclarer à la mairie. J'étais, comme mon père était secrétaire de mairie. Et il a dit, ben, je l'ai dit au maire, et puis le secrétaire de mairie était au courant. Alors quand ils sont venus demander, chercher mon frère, mais mon père a dit, ben, écoutez, aujourd'hui c'est la fête du village. C'est vrai, les Allemands, le jour de la fête du village, je me souviens, on était en sortant de la messe, je me souviens encore qu'il y avait tous les camions sur la place, puis les Allemands qui descendaient et qui allaient visiter toutes les maisons. Ils ont fouillé dans toutes les maisons, quoi. Si bien que chez mon père, ils ont dit, ben, votre fils, ben, le papa a dit, ben, c'est la fête du village, vous savez bien, les jeunes, je ne sais pas où il est, moi, il est parti. Bon, ben, alors vous allez nous suivre. Alors, moi, j'étais avec maman à la maison, puis papa nous a dit au revoir. Il nous a dit au revoir, mais vous inquiétez pas, on revient tout de suite, qu'il a dit pour nous tranquilliser. Et puis, ben, on a envoyé les voitures arriver, puis ils arrêtaient des gens. Tous les types, les noms qu'ils avaient donnés, forcément, ben, les gens, ils avaient dans les villages, ils disaient, ben, tel, pouf. Allez, alors, tout le monde était rassemblé au bord du canal, là, puis après... on a vu les voitures partir. Papa nous a fait signe. On était à la fenêtre. On les a vus partir. Et puis mon frère, lui, bon, il a dit qu'il savait pas où il était. Il avait dit à mon frère, parce qu'il se doutait bien de ce qui allait se passer dans le village, papa. Si bien qu'il a dit à mon frère qui avait... Ben, il avait presque 20 ans, quoi. Il avait 19 ans. Il lui a dit, va te cacher dans le clocher, ils penseront pas à aller fouiller le clocher de l'église. Et c'est ce qui s'est passé. Si bien que du clocher, il a vu tout ce qui se passait. Les voitures qui arrivaient, les Allemands qui repartaient, enfin, tout ça. Voilà, alors ben, mon père a été arrêté en juillet. C'était au mois de juillet, le jour de la fête du village. Et puis, ben, il est resté un mois à Amiens, dans la prison d'Amiens. Et il est parti au mois d'août pour l'Allemagne, ou à Buchenwald tout de suite. Et puis après, dans un autre camp, à Stassfurt. Oui, voilà l'histoire. Alors lui, oui, il est revenu. Ouais. Oui, parce que je vous dis, c'était la fin de la guerre, hein, 44... En juillet, en mois d'août 44, et bon, la guerre se terminait. Hein, je ne sais plus les dates. Moi, quand est-ce que c'est terminé la deuxième guerre?
Arlette nous livre un témoignage puissant sur la guerre et sur la résistance. On ne peut qu'imaginer la douleur familiale suite à cette disparition. Après ces souvenirs difficiles, Arlette se confie sur sa vie de jeune fille et la rencontre avec son mari.
Après, moi, au mois d'octobre, c'était la rentrée des classes. Moi, je suis rentrée en sixième. Alors, ben, il a fallu que j'aille rentrer en sixième dans un village voisin, à Péronne. Mais alors, pour y aller, on n'avait pas de voiture. On avait... fallait que quelqu'un m'emmène. Alors, c'est un agriculteur d'amis de mes parents qui m'a emmenée dans sa voiture à cheval. Il avait une carriole, donc avec mes valises, mon matelas, parce qu'il n'y avait plus grand-chose à l'école. J'ai rentré en sixième comme ça, avec ce barda-là, comme ça. Je n'avais pas le cœur. d'aller en sixième déjà. Enfin, partir comme ça, toute seule, de laisser maman. Ceux qui partaient pas, ils étaient cachés chez... je vois encore un bon copain, mon frère, là, sa maman, ses parents, ils accueillaient. Et ben, ils étaient cachés, ils les nourrissaient. Puis ils revenaient quelquefois chercher des vivres à la maison pour emmener là-bas, justement, aux autres, là-bas. Mais il ne fallait pas que les Allemands les trouvent. Hein. Voilà. En 50, quand on est venu habiter en Anjou, on a loué une maison. Et puis, bon, ben, mon père, mon frère, ils sont venus là pour planter ce verger. Puis moi, je me souviens que moi, après, il avait que son petit salaire d'instituteur pour vivre, pour nous, ben, il fallait bien vivre de quelque chose. On a mis des légumes. Alors, dans le champ, entre les rangs du verger, il y avait des haricots verts, il y avait des petits pois, il y avait selon les saisons. Et puis, moi, j'ai aidé. Alors, j'adorais faire ça. J'aimais bien. Voilà. Alors, je me suis fait une amie tout de suite, une bonne copine. Et voilà, j'en arrive après à Dédette, où j'étais vraiment une amie. Et elle voyait bien ce que je faisais, puis elle le racontait chez elle. Puis son frère devait entendre ça, sans doute, ce que je faisais. On se voyait bien quand on allait au patronage des filles. Avec elle, on jouait au ping-pong, tout ça. Et puis quand on passait dans la salle du patronage, où on allait du côté des filles, et il y avait des garçons qui étaient là dans la salle, qui étaient en train de jouer aux cartes. Et dans ces gars qui jouaient aux cartes, mon frère jouait avec, et il y en avait donc le frère de mon ami qui jouait avec les autres et qui me voyait passer. On se voyait tout le temps. On se faisait... On se faisait un petit... on avait l'air de se connaître, mais on ne s'est jamais parlé. On n'avait pas l'occasion. Lui, il joue aux cartes sérieusement. Comme ça. Puis moi, je passais. Et puis ça a duré comme ça quand même un bon moment. Et puis après, du coup, il fallait aller chercher du lait à la ferme. C'était chez eux aussi. Et j'allais toujours à la même heure, ils le savaient. Et puis un jour, oui, alors c'est Milly qui a eu du mal à comprendre ça le jour où je lui ai dit. Le jour où il m'attendait dans le chemin. C'était la première fois qu'on se parlait, et puis on a parlé un peu de sa sœur, de mon travail. Puis là, il m'a demandé si, mais il a parlé de plus tard, d'avenir sans doute, qu'est-ce que je pensais faire plus tard. Mais puis il m'a demandé si j'aimais la ferme. Avec lui. Ben oui, moi j'aimais bien. Toutes mes copines du village, elles étaient toutes dans des fermes. Enfin, il n'y avait que ça dans ce petit village-là. Et tout de suite, les gens avaient un peu de terre. Alors ben, moi je me plaisais bien là-dedans. Alors j'ai dit oui, puis il me demandait si j'accepterais de me marier avec lui, de vivre à la ferme, là où j'allais chercher mon lait tous les jours. Oh ben oui, moi tout de suite j'ai dit oui.
Vous avez dit oui?
Oui. Oh ben oui, sans réfléchir plus. Oui, c'était...
Alors que tu lui avais jamais parlé.
Non, mais de la façon qu'on se regardait, quand je passais, c'est comme si puis Bernadette me parlait de lui, et puis elle lui parlait de... Il savait tout ce que je vivais, en fait. Alors après, ben, ce jour-là, il m'a demandé, moi j'ai dit oui. Bon, alors, quand on était en plein milieu du chemin, on s'est rangé un peu, il y avait le château qui était là. On a avancé un peu, on s'est appuyé au mur du château pour causer. Puis là, on a causé. Là, on a parlé d'avenir, on a parlé tout ça. Et c'était la première fois qu'il m'avait embrassée. Voilà.
Ah, quand même.
Ah ben oui. c'était pas un coureur de jupons. Hein. oui, il faisait sérieux, en fait, ça m'impressionnait un petit peu de la façon qu'il se comportait. Oui, mais sans, ça n'a rien de commun à ce que vous vivez les jeunes maintenant.
Parce que j'imagine que vous avez attendu le mariage.
Oh ben attends, on ne demande pas trop, tu sais, je sais plus.
Ah, peut-être pas.
Non, je ne sais plus. Non, mais je ne sais pas si c'est le fait de penser. Rien que de penser au mariage, c'est déjà plus très vierge quand rien que d'y penser qu'on va se marier. C'est pas ça? Moi, pour moi, être vierge, c'est quand on n'y connaît rien au mariage. Non, je me mariais, avoir une famille, c'était bon. C'était ça, mon but. J'avais été élevée comme d'abord, même chez les bonnes sœurs. On se marie, on fonde une famille, fonder une famille, c'était le mot.
Et t'as pas eu d'autres demandes en mariage avant celle de papy?
Ah ben ça, si.
Qui ça?
Ah ben non, ben non, ben de toute façon tu les connais pas.
Ben je pense qu'ils sont morts déjà.
Ben non, ben je, écoute, j'étais comme toi. Bon, j'étais quand même assez belle fille. Bon, bah, oui, tout de même, il y en a qui venaient là. Mais alors, bah, moi, j'étais très, j'aurais été très dure. On ne touche pas.
Et pourquoi tu disais non à cela?
Ben, parce que je ne me voyais pas fonder une famille avec eux.
Pourquoi?
Ah ben, pourquoi? Ben, je ne sais pas, moi. Tu vois bien le genre des... Ben non, il y avait des amis qui venaient chez moi, qui pensaient sans doute. On n'avait peut-être pas beaucoup, dans ce village. On ne sortait pas beaucoup déjà à l'époque. Quand on est sorti de l'école, j'avais des amis, des copines. Elles, les parents, leur mère aimait bien sortir. Et elles allaient au bal tous les dimanches. Mais moi, il n'en était pas question chez mes parents. On était au bal le jour de la fête du village, puis le dimanche d'après, mais après c'est tout. Après c'était l'année suivante. Bon, alors quand quelqu'un vient te faire danser comme ça un petit peu, c'est un flirt quoi, mais c'est tout, ça s'arrête là, un flirt. Des petits flirts qui durent pas parce que j'aurais pas supporté les mains baladeuses.
Ils avaient les mains baladeuses?
Bah, tous les hommes, enfin, en principe, ça aurait pu, mais ils les ont pas eu, avec moi.
Ça veut dire quoi, des mains baladeuses? Enfin, ça, c'était quelque chose de courant, avant le mariage, que les hommes avaient les mains baladeuses?
Mais non, mais c'est courant, mais ça l'est encore maintenant, non? Bah, je sais pas. Moi, vous me posez des questions indiscrètes. Moi, je pourrais vous en poser aussi. Quand vous embrassez un garçon, vous l'embrassez, tout ça. Bon, ben, qu'est-ce qu'il fait de ses mains? Il ne va pas les garder dans le dos tout le temps. Bon, alors, vous voyez bien tout ce que les mains peuvent, où elles peuvent aller, quoi faire.
Arlette semble avoir une idée bien à elle de ce que sont les relations avec les hommes. Elle nous raconte ensuite son quotidien de femme et de mère de famille à la ferme.
Ben oui, on a habité à la ménagerie, hein, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, on a eu il y avait deux pièces, comme la maison est grande, il y a eu deux pièces pour nous, oui. On avait deux chambres en haut, c'est bien qu'il y en avait une qui c'était notre petit salon et puis notre chambre à côté, oui, c'est les deux chambres du bout, là, tu vois. Oui. Mais avec les beaux-parents, alors où il y avait... Oh ben non, c'était sûrement pas le rêve de dire on habite à deux dans une petite maison. Non, là, c'était... Mais bon, j'arrivais chez les parents de papy, la Noël, mais bon. Il y avait mes belles-sœurs qui rentraient, qui travaillaient à Angers et qui rentraient toutes les semaines là. Elles avaient leur chambre aussi. Puis le frère de mon mari aussi, qui avait sa chambre là aussi. Et puis moi, ben, j'aidais avec ma belle-mère, ben, on faisait la cuisine ensemble, je m'occupais des lessives, moi j'aimais bien ça. J'avais toujours fait ça avec maman, si bien qu'on n'était pas équipés, il n'y avait pas de machine à laver. Il y avait une chaudière dehors, où on faisait bouillir le linge. Et puis on avait l'eau chaude dehors, il y avait une table là, où on lavait comme ça sur la table, comme ça se fait encore certains maintenant quand il n'y a pas de machine à laver. Mais j'aimais bien, ça ne me dérangeait pas du tout de faire ça. Puis c'est comme ça, ma belle-mère, elle était quand même... Elle était plus vieille que maman. Et puis ben, j'aidais un petit peu à la ferme aussi. Il y avait l'étable qui n'était pas loin, alors j'allais aider mon beau-père à traire les vaches. Alors ça, j'aimais bien aussi. Quand Marie-Colette est née, ils étaient encore là. Et puis quand mes belles-sœurs, qui elles n'étaient pas mariées ni l'une ni l'autre, quand elles ont aperçu qu'on attendait le deuxième, elles ont poussé à la roue pour déménager ses parents. Mais j'aimais bien la vie de la ferme.
Et vous aviez 3 enfants, et comment vous avez fait pour en avoir que 3?
Ah, question.
Moi, j'ai un souvenir. Je ne sais pas si tu veux en parler. Hein. Mais je sais qu'un jour, tu m'as dit que
papy, il avait un petit pyjama avec une petite poche et qu'il sortait un petit préservatif.
Alors, en peau d'agneau, je ne sais pas quoi, à l'époque.
Oh, bah non, à l'époque, ils ont toujours été pareils, les préservatifs.
Ouais, je sais pas.
Ils n'ont pas changé, bah non. Bah oui, il a bien fallu trouver, quand même. Parce qu'il y avait la méthode Ogino, ce qu'on appelait la méthode Ogino. Hein? Alors, il faut choisir ses jours. La méthode Ogino, on a dû l'essayer un petit peu avant d'avoir le préservatif, je suppose. Sans doute, parce que tu vois, on a été quand même... Noël est née en... Colette en 54, en 55 et...
Maman
en 60. Alors, tu vois, entre 55 et 60, il y a peut-être eu Ogino avant d'avoir le préservatif, peut-être. Où on a pu espacer un peu. Ben, mon mari était neuf hein, chez lui. Il savait ce que... Moi, je rêvais d'une grande famille. Quand j'étais jeune fille, jeune, je me disais... Moi, je souffrais justement qu'on n'était que 3 à la maison. Et je me disais, ben, chez nous, moi, j'aurais des enfants. Hein. Mais eux, ils étaient 9, ils savaient ce que c'était. Il était le 7e de 9, dans une maison sans confort, sans rien. Ils avaient dû vivre durement, quand même. Marie-Colette est née à la ménagerie, là en haut, dans la chambre, puisqu'on avait 2 pièces à nous, ben, dans la petite chambre, là. Il y avait le docteur qui était là, et puis le beau souvenir que j'ai de la naissance de ma fille, de Marie-Colette, l'aînée, j'ai le souvenir du docteur avoir Marie-Colette, il l'a enveloppée dans c'était au mois d'août. Une serviette de toilette, dans une belle serviette de toilette qui était là, et le mettre sur les genoux de maman. Alors là, je n'oublierai jamais ce moment-là, le bonheur de maman, elle qui craignait que j'en ai tout plein d'enfants. En 60, ça a été plus facile, sans doute, il y avait la maternité pas loin. Enfin bon, moi, j'ai toujours dit que en 60, à la naissance de la 3e, c'était mes premières vacances. Que je le dis quelquefois encore maintenant, ça les fait rigoler, ils se demandent ben pourquoi. Mais en fait, de partir, j'avais l'impression de partir en vacances, moi, chercher.
De partir à la maternité?
Oui. Ah ben après, c'était pas du tout, oui, avec les 3, oui.
Et à la maison, vous vous occupiez des enfants, donc de vos filles? Vous étiez toute seule à vous occuper de vos filles? Votre mari vous aidait un peu? Comment ça se passait?
Ah bah non. Oh non. Ah non, ça je veux même... Non, par principe, oui, par principe justement, maman était comme ça aussi, ma mère. Les hommes, ils travaillaient, hein, nos hommes, ils travaillaient dur. Mais la maison, c'était notre rayon à nous. C'était nous. Alors là, voir papy, hein, tu l'as vu faire quelque chose à la maison?
Non.
Moi non, puis en plus, ça m'aurait, je ne veux pas dire blessé peut-être quand même, mais bon, non, ça serait honte qu'il fasse ce que normalement moi je devais faire. Mais tout ça parce que je n'allais pas travailler. La vie n'était pas la même, moi je ne partais pas au travail comme tout le monde maintenant, ou... Quand tes parents travaillent, ils reviennent, faut bien que... Tandis que là, j'étais à la maison tout le temps, j'avais aucune raison d'avoir de l'aide, puisque j'étais là. Mais par contre, lui ne me demandait pas s'il y avait quelque chose de dur. Si j'allais l'aider, si la nuit, il y avait... On était dans une ferme d'élevage, s'il y avait un vélage la nuit, là, je ne l'aurais pas laissé tout seul, j'allais avec lui, puis j'avais envie d'aider s'il y avait besoin aussi. Puis de voir arriver le petit veau, j'étais contente aussi de voir ça. Non, moi j'aime bien les hommes virils. Alors que si tout d'un coup ils se mettent à à faire des petits machins comme ça. Oh, tiens. J'en vois quelquefois là, ici, d'être à table avec d'autres, qui vont tout d'un coup, ils vont voir des miettes, ils vont se mettre à enlever les petites miettes comme ça. Mais ça, ça m'horripile au plus haut point. Faut qu'ils s'intéressent à leurs petits, les maris, les hommes. Hein. Tu vois là, je vois là, c'était avec Colette. Là, c'est Mémé.
Il jouait avec eux ?
Non, ben non, il a jamais joué en fait. Non, je l'ai jamais vu jouer.
Et c'est comment d'être en couple pendant 67 ans ? Ça évolue, c'est... C'est comment marche l'amour pendant 67 ans ?
Ah ben là, c'est tout simple. Oui. Bon, on ne cherchait pas midi à 14h, hein, déjà. bon, on vivait simplement la vie de tous les jours. Mon mari allait à son travail. Ah non, on ne s'est jamais ennuyé ensemble. Moi, j'ai connu mes parents qui se disputaient quand j'étais petite. Et j'ai souffert de ça. Alors là, j'aurais jamais voulu avoir des scènes comme j'ai vu quelquefois. Vraiment, ce qu'on appelle une scène de ménage. Et être pas d'accord, tu vois. Et maman ne cédait pas. Si elle pensait qu'elle était dans le vrai... Alors, pour rien au monde, elle aurait voulu caler. Alors, puis mon père était comme ça tous les deux. Alors, moi, j'ai mes deux frères qui étaient plus vieux que moi. Eux, ils se tiraient. Ils allaient retrouver les copains. Mais moi, la petite qui restait à la maison, j'entendais. Je les entendais. Mais alors, je disais à maman, dis rien, dis rien. Dis rien, tais-toi, dis rien. Je vois encore lui dire ça.
Donc, ça a été ta technique hein? Pour pas te disputer avec papy, tu disais rien?
Oh non. Oh non, avec papy, non. Oh, non. Avec lui, il n'y aurait pas. On se disputait. Ah ben non. On n'a jamais eu l'occasion. C'est drôle, on a toujours été d'accord. On a eu la même éducation. On avait les mêmes goûts. En fait, on n'a pas eu à se heurter. Vraiment. Jamais. Non, oui, c'est une vie tellement toute simple que je me dis, oui, qu'est-ce qu'on peut rajouter ? Ce qui a été dur, c'était plutôt les séparations, c'était les coups durs. Les coups durs de perdre, tu vois, la première fois d'avoir perdu mon frère quand j'avais 11 ans. Là, je l'ai encore là parce que je ne peux pas... c'est lui, je ne sais pas, c'était tout...
Arlette marque pour nous une immersion dans la campagne angevine. On découvre avec elle, comme avec beaucoup de nos mamies, des souvenirs très forts de la guerre. On sent aussi combien les cadres de vie sont différents, de la ville à la campagne. Merci Émilie pour cette belle rencontre avec ta mamie.
Non, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter ? Ben, c'est tout, une vie toute simple, faut pas chercher midi à 14h dans la vie.
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux @mamiepodcast et par mail à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.